Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans les incorrectibles sur Sud Radio. Après une semaine de relâche, l'émission est de retour, mais vous le voyez dans une formule remaniée, confinement oblige. En effet, comme tous mes confrères de Sud Radio, nous assurons désormais toutes nos émissions à distance et en effectif réduit. Un grand merci au passage à nos équipes techniques qui permettent donc que ce fil ne soit pas rompu, ce fil qui nous relie. En tout cas, soyez rassurés, l'ADN de cette émission demeure. Donnez la parole à ces personnalités qui ne pratiquent pas toujours le politiquement correct quand il s'agit de commenter l'actualité. Et c'est peu dire qu'il y a matière en ce moment avec cette pandémie de Covid-19. Allez, nous sommes ensemble pour une heure. C'est parti pour les incorrectibles sur Sud Radio.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Alors, mon invité de ce dimanche est une femme politique. Elle est députée LR des Bouches-du-Rhône, ce qui nous amène à la recevoir aujourd'hui en duplex de son appartement marseillais, où elle est confinée avec son mari et deux de ses enfants. C'est l'actualité, bien entendu, autour du Covid-19, d'un traitement en particulier, celui du professeur Raoult, et plus généralement de la gestion de cette crise sanitaire en France. Valérie Boyer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, j'aimerais vous demander une réaction à la nouvelle politique de ce jour. On a appris ce dimanche le décès de Patrick de Vidjean, le président de la région des Hauts-de-Seine et ancien ministre. Quelle réaction, Valérie Boyer ?
C'est vraiment une grande tristesse. Patrick de Vidjean était un ami pour moi, un maître aussi. Il m'a énormément appris. C'est quelqu'un dont j'étais très proche. J'ai vécu avec lui des moments politiques formidables. Nous étions allés ensemble en Arménie avec le président Sarkozy avant que je défende la loi sur la pénalisation du négationnisme. Il m'avait toujours soutenue. Il était venu en 2012 pour ma première réélection aux législatives à Marseille. Il m'avait aussi énormément soutenue. Je garde avec beaucoup d'émotion ces moments amicaux, drôles, sympathiques, chaleureux que nous avions passés ensemble à Marseille et en particulier dans le quartier de Beaumont. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui avait beaucoup aidé Marseille en tant que ministre de la Relance, puisque c'est en partie grâce à lui qu'on a pu terminer les travaux de la L2, puisque c'est lui qui a délivré les derniers crédits qui ont permis de terminer la couverture partielle de la L2. Donc, c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur, que j'avais plaisir à voir et que j'avais croisé lors du dernier repas du CCAF, du Conseil des coordinations des associations arméniennes de France. Je l'avais croisé à Paris. Bon, franchement, c'est une grande perte, je pense, pour moi, sur le plan personnel. C'est une grande perte pour la vie politique et c'est une grande perte pour la France parce que c'était un grand Français et un homme extrêmement cultivé. Et toujours très drôle, pince sans rire. Évidemment, sur son histoire familiale, sur l'histoire de l'Arménie avec qui j'avais vraiment beaucoup échangé, c'était un puits de science. Aussi savoir que c'était quelqu'un de très courageux, très engagé. Ça a été un des premiers avocats justement de la cause arménienne en France. C'était l'avocat de la Sala.
Valérie Boyer,
franchement, j'ai un immense chagrin aujourd'hui et je voudrais saluer sa famille, ses enfants dont il était si fier et leur dire que je partage leur peine et que Patrick, si je peux me permettre, restera dans mon cœur et il est dans mes prières.
Valérie Boyer, on vous sent très ému. Le fait qu'il soit décédé des suites du Covid-19 alors qu'il n'avait été diagnostiqué que le 26 mars, c'est-à-dire il y a seulement quelques jours, est-ce que vous pensez que le décès d'une personnalité aussi emblématique que lui peut aider à faire prendre conscience de la dangerosité de ce virus ?
Je ne sais pas, mais vous savez, nul n'est épargné par cette épidémie et peut-être, en tout cas, c'est une personnalité très connue en France, je pense très aimée, extrêmement populaire, notamment dans la région parisienne, qui est gravement touchée par le Covid-19. Je pense que ça peut faire prendre conscience de la gravité et surtout du fait que on peut décompenser très vite.
Alors, Valérie Boyer, on va parler à présent, bien sûr, de l'actualité
Mais je ne sais pas,
de ce
excusez-moi, je ne sais pas comment
Covid-19.
il avait été traité, ni à quel degré de la maladie Patrick avait été pris en charge non plus. Donc toutes ces informations-là, nous les ignorons pour pouvoir porter, voir à une opinion sur, mais, sur son état. Mais je sais qu'il y a quelques jours, il tweetait qu'il se remettait bien, quoi.
Ouais, on ne sait pas s'il a bénéficié de ce
Et
traitement
puis
à
il
la
avait été très
chloroquine.
présent aussi pour les élections municipales, puisqu'il avait félicité tous les maires du département qui avaient été élus au premier tour ou qui avaient enregistré des très bons scores.
Alors Valérie Boyer,
Bon, en
si
tout
vous le voulez
cas,
bien, on va
aujourd'hui, je peux
parler
vous dire que
de
ça me
votre
serre le
cas.
cœur.
Vous avez été vous-même testé au Covid-19, c'était le 16 mars dernier. Vous aviez débuté un traitement le 17 mars. Vous aviez été donc testé positif après avoir décidé de vous faire dépister suite à l'aggravation de votre toux et une sensation d'épuisement intense. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de votre état? Est-ce que vous êtes totalement guéri?
Alors, j'ai passé un dernier test vendredi. J'ai eu les résultats samedi dans l'après-midi. Donc, mon premier test est négatif et j'attends un deuxième test négatif. Donc, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour mon deuxième test négatif lundi matin et je pense que j'aurai les résultats lundi soir ou mardi. Il faut
Alors,
deux négatifs pour être certain d'être débarrassé du Covid-19.
vous avez été hospitalisé, vous l'avez dit. Comment s'est passée un petit peu en détail la prise en charge de votre maladie une fois diagnostiquée positive? Par quels états êtes-vous passé? Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie?
Alors déjà, je voudrais dire que j'en ai parlé parce que c'est le journal La Provence qui a décidé de mettre une photo de moi en disant Valérie Boyer est positive, alors que j'étais hospitalisée. Bon, moi, je me suis rendue lundi 16 à l'hôpital parce que je savais qu'il y avait des dépistages, donc à l'infectiopole de Didier Raoult. Et j'avais très peur, en fait. Pas pour moi, mais de contaminer les autres. C'était ma première préoccupation et c'est ce qui m'a poussée à me rendre au dépistage. Donc j'ai fait la queue comme tout le monde. J'ai été dépistée avec un écouvillon dans le nez et le soir on m'a appelée parce qu'à l'époque il y avait 400 tests par jour. Vendredi on en fait plus de 1000. Vous voyez un petit peu le. Donc le 16 il y avait moins de 400 tests par jour, je crois. Donc j'ai eu les résultats assez vite et ils m'ont appelé pour me demander d'être hospitalisée. Moi, ma première réaction, ça a été de prévenir toutes les personnes avec lesquelles j'avais été en contact. Donc j'ai sur tous les fils WhatsApp que j'ai dit que j'étais positive et j'ai dit que si les gens souhaitaient, ils pouvaient se rendre à l'hôpital pour être dépistés. Et j'ai rien dit de plus. Et bon, il faut savoir qu'il y a plus de 70 personnes de mon entourage qui se sont rendues dès le mardi matin pour être dépistées, et aucune, y compris ma propre famille, donc des personnes dont je suis très proche, y compris des personnes que j'ai beaucoup fréquentées parce qu'on partageait la même voiture, on était ensemble toute la journée, etc. Comme ça se passe pour les campagnes, eh bien, aucune n'a été testée négative. Il y a une personne de notre liste qui est positive et qui est traitée comme moi par le docteur Raoult.
Alors justement, vous le disiez, vous avez suivi le traitement controversé du professeur Raoult, spécialiste des maladies infectieuses, qui conjugue un antipaludéen et un antibiotique. En quoi consistait précisément ce traitement? Quelle était la posologie? Quels en ont été les effets? Est-ce que vous pouvez nous en
Alors,
parler?
quand je suis. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai subi toute une petite batterie d'examens, un examen cardiaque, bien sûr, des analyses sang, sel, urine, etc. Prise de température plusieurs fois et prise des constantes, c'est-à-dire la gazométrie. Donc, j'étais surveillée, j'ai commencé le traitement le mardi matin. Donc, effectivement, ce mélange d'antipaludéens et un antibiotique. Donc, ça consiste en simplement en plusieurs cachets hein, par jour que vous prenez par la bouche. J'ai rien eu d'autre, ni de respirateur, ni de perfusion, ni rien du tout. Donc, j'étais dans une chambre de l'infectiopole de Didier Raoult avec des infirmières et du personnel absolument adorable qui passait plusieurs fois par jour. Et je suis partie vendredi matin pour poursuivre mon traitement à la maison. Donc, j'ai poursuivi le traitement chez moi. Chez moi, je suis en province, donc j'ai la chance de pouvoir avoir une chambre d'amis. Donc, j'ai dormi dans une chambre à part et j'étais avec un masque toute la journée. Et bien sûr, j'appliquais les gestes barrières et je me lavais les mains plusieurs fois par jour dès que je toussais quelque chose. Moi, j'ai pris mes repas en famille, mais un petit peu éloigné de ma famille, sur un coin du canapé, avec ma vaisselle à part, enfin, avec des mesures de protection pour ma propre famille.
Et pas d'effet secondaire particulier.
Mesures de protection que j'ai essayé de prendre à partir du moment où on m'a dit que mon premier test était négatif.
Vous n'avez pas subi d'effet secondaire particulier ?
Non. Enfin, les effets secondaires, c'est que je me sens mieux aujourd'hui, ouais. Que j'espère être guérie, même si je tousse toujours encore un petit peu. Et justement, je voudrais revenir sur cette polémique des effets secondaires parce que c'est très curieux qu'on pose cette question des effets secondaires parce que les antipaludéens sont des médicaments qui ont été pris par 1 milliard d'êtres humains. Donc, s'il y a bien quelque chose qui est testé, ce sont les antipaludéens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois qu'on a beaucoup de chance dans notre malheur de cette épidémie. C'est d'avoir un médicament dont on connaît parfaitement justement les effets secondaires. C'est un médicament qui a été étudié, réétudié. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui prennent du plaquénil parce qu'elles ont un lupus, parce qu'elles ont une polyarthrite rhumatoïde, etc. Donc, ce médicament, il est extrêmement connu. Et quand vous prenez un traitement adossé à un établissement de santé, a fortiori un centre hospitalo-universitaire, vous savez que les effets secondaires sont pris en charge et sont traités. Donc, et un médicament, forcément, doit produire des effets secondaires, sinon il ne vous soignerait pas. Donc, je ne comprends pas trop cette polémique sur les effets secondaires pour un traitement qui est connu, qui a été donné à des milliers de personnes, et pour un médicament dont plus d'un milliard d'êtres humains, que plus d'un milliard d'êtres humains a utilisé. Donc, c'est très curieux parce que tous ces effets, on les connaît parfaitement. Et je dirais que c'est un luxe que nous avons aujourd'hui de pouvoir disposer de ce médicament très, très connu et qui plus est fabriqué par un des derniers grands laboratoires français.
Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône, qui a contracté donc le Covid-19 et qui en est guérie, c'est ce qu'elle nous annonce sur Sud Radio aujourd'hui.
Je suis sur la voie de la guérison. On me dira lundi ou mardi si je suis guérie avec le deuxième test négatif.
Mais en tout cas, le premier est négatif, ce qui est encourageant. Merci de rester avec
oui,
nous.
Oui, ce qui est très encourageant. Et est-ce que je peux en profiter pour remercier vraiment toutes les équipes de Didier Raoult ?
Mais on reste ensemble jusqu'à 14h. On va avoir l'occasion d'en parler plus en détail de ce traitement et bien sûr de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. On fait une courte pause et on se retrouve dans Les Incorrectibles avec Valérie Boyer dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles avec notre invité ce dimanche. Nous sommes en direct jusqu'à 14h avec Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône, qui a contracté donc cette maladie, le Covid-19, et qui, après un traitement, nous annonce qu'elle est sur le chemin, en tout cas, de la guérison, puisque un premier dépistage, hier, nous annonce que sa charge virale serait devenue négative, et cela doit être encore confirmé, vous nous le disiez, lundi. Alors, nous allons bien sûr reparler de ce cas du professeur Raoult, qui déchaîne évidemment les passions. La première étude de ce professeur a été vivement critiquée par une partie de la communauté scientifique qui lui reprochait sa méthodologie et son faible taux de patients testés. Il y en avait 24. Celui-ci vient de publier une seconde étude menée cette fois sur 80 patients qui ont pris du plaquénil, un médicament à base d'hydroxychloroquine associé à de l'azithromycine, un antibiotique. Alors, selon l'équipe du professeur Raoult, 78 de ces patients ont connu une amélioration clinique, je cite, rapide de leur état de santé et ont pu quitter les soins intensifs au bout de 5 jours. Un seul, âgé de 86 ans, est décédé et un autre de 74 ans est toujours dans un état très grave. Alors, malgré ces résultats encourageants, le scepticisme scepticisme subsiste, car il reste tout à fait possible que ces patients aient guéri de façon naturelle, l'âge médian des malades testés étant en plus relativement jeune, à savoir 52 ans. De plus, l'équipe médicale n'a pas utilisé de groupe témoin, c'est-à-dire des patients soumis à un traitement différent, afin de pouvoir comparer. Et beaucoup de médecins dénoncent les effets secondaires de la chloroquine qui peut entraîner nausées, vomissements, troubles cardiaques, neurologiques, atteintes ophtalmologiques, entre autres. Alors vous, Valérie Boyer, vous soutenez totalement le professeur Raoult, mais est-ce que vous comprenez les réticences face au manque de recul dont on dispose? Est-ce que pour vous, l'urgence prévaut tout le temps sur la prudence? Est-ce qu'elle doit prévaloir sur la prudence aujourd'hui?
Moi, j'ai aucun avis médical à donner. Je suis une malade. J'ai la chance d'être marseillaise et donc je savais qu'à Marseille, déjà, il y avait des tests. Parce que la première chose à faire en cas d'infection, d'épidémie, c'est de tester pour savoir si on est malade, mais surtout pour savoir si on ne va pas contaminer les autres. C'est la première étape. Et moi, c'est pour ça que je me suis rendue à l'hôpital pour ce test. Ensuite, l'avis médical, j'en ai pas, mais en revanche, j'ai confiance dans Didier Raoult. J'ai confiance parce que je sais qu'il est à la tête d'un infectiopole qui est quelque chose d'absolument extraordinaire, qui est unique, quasi unique au monde, en tout cas unique en Europe, que c'est un grand savant, qu'il a plus de 300 publications à son actif et que vendredi, il a publié une autre étude. Et moi, j'entends les critiques médicales. J'ai pas d'avis à donner là-dessus. Je ne soutiens pas le traitement du docteur Raoult, mais je suis une patiente et j'ai confiance dans le médecin qui me traite, en l'occurrence Didier Raoult et ses équipes. Je ne me permettrai jamais de dire il faut de la chloroquine ou il ne faut pas de chloroquine. C'est pas de mon ressort.
En revanche, avec vous, ça
ce
marche.
Que je constate,
ça a marché,
c'est que c'est le seul à proposer quelque chose, que moi je vais mieux, que je connais plusieurs personnes qui sont passées à l'UHU, donc à l'infectiopole, et qui vont mieux et même qui sont guéris. Et voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, là où j'ai un avis, c'est sur d'autres sujets qui me semblent des sujets plus de logistique que des sujets médicaux. Le premier avis, c'est sur les masques. Je suis absolument consternée de la façon dont ça se passe pour les masques. Le deuxième avis, c'est sur le dépistage. On ne peut pas soigner sans dépister.
On va y venir, Valérie Boyer. J'aimerais un instant rester sur le cas de ce professeur Raoult. Les médias évoquent un bras de fer politique. Vous faites partie, donc, vous le rappelez, de ces droites marseillaises qu'il soutient, tout comme le maire de Nice, Christian Estrosi, qui lui aussi.
Mais c'est pas un match OM-PSG, hein.
Non, mais on le voit bien.
Là.
Justement, est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté politique, justement, selon vous, du gouvernement d'Emmanuel Macron, de faire barrage au professeur Raoult et à ce recours, à ce qui semble être un remède plein d'espoir, la chloroquine?
Je ne comprends absolument pas cette polémique, d'autant qu'on n'a absolument rien d'autre à proposer. Et qu'en plus, l'étude qu'a publiée Didier Raoult vendredi montre bien que la première chose, c'est que ça permet aux malades de ne pas s'aggraver. Donc lui, sa thèse, si j'ai bien compris, c'est de dire qu'il faut prendre les malades avant qu'ils s'aggravent. Et en fait, ça empêche des personnes d'avoir besoin d'un traitement beaucoup plus lourd. Donc, ça jugule l'épidémie. Voilà. Un, il dépiste, parce que Didier Raoult a toujours dit qu'il fallait un dépistage massif. Et deuxièmement, il jugule l'épidémie, c'est-à-dire qu'il permet aux personnes de ne pas s'aggraver. Donc, aujourd'hui, c'est le seul à proposer ça avec un médicament qui ne coûte rien, parce que la boîte de Plaquenil, c'est moins de 5 euros. Et c'est fabriqué par un laboratoire français, en l'occurrence Sanofi.
Oui, dont on apprend que le gouvernement n'aurait
pas encore... Et le laboratoire
français,
d'ailleurs, qui le donne aux hôpitaux.
Valérie Boyer, on va parler de la gestion justement de la crise sanitaire par le gouvernement. Nous n'avons ce dimanche toujours pas atteint le pic de l'épidémie en France. Le pire est à craindre dans les jours à venir, dans les hôpitaux où les services de réanimation risquent d'être très vite saturés, notamment en Île-de-France. Les critiques sur la gestion de cette crise semblent de plus en plus virulentes, alors qu'Emmanuel Macron appelle à l'unité de la nation.
Ouais.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui accusent le gouvernement actuel de manquer de transparence?
Moi, je dirais que c'est surtout de cohérence. C'est difficile de supporter ce catéchisme de l'unité. Moi, j'ai envie que mon pays réussisse. J'ai envie qu'il y ait de moins possible de personnes qui soient contaminées et qu'on applique les bonnes décisions. L'Union nationale, ce n'est pas pour l'opposition de se taire. Ce n'est pas le silence, c'est l'absence de réponse ou les mauvaises réponses qui divisent. Donc, arrêtons de faire ce procès à l'opposition. Nous, nous sommes là pour faire des propositions, pour nous interroger, pour... Vous vous rendez compte ? Imaginons une seconde que je me sois tue sur les résultats de mon traitement. On aurait dit que je n'informerais pas les Français. Or, non seulement j'ai subi un dévoilement de ce qui se passait dans ma vie privée, et donc à ce moment-là, j'ai décidé de communiquer, mais je pense que c'est mon devoir de le dire quand on me pose la question, que les gens connaissent mon parcours, parce que c'est un parcours de n'importe quel Marseillais qui a décidé de se rendre à l'IUHU, et parce que ensuite, le fait que je sois guérie, je pense, enfin que je sois sur la voie de la guérison, je pense que c'est porteur d'espoir. Et par rapport à Didier Raoult, sur une maladie infectieuse dont il est un des spécialistes mondial, parce que Didier Raoult, c'est le spécialiste des maladies intracellulaires et des maladies infectieuses au monde. Il n'y a pas 50 000 personnes de son calibre dans le monde. Comment ne pas lui faire confiance ?
Vous pensez que le dispositif mis en place à l'heure actuelle, donc je le rappelle, confinement avec autorisation de sortie pour certains travailleurs, pour faire ses courses, pour faire de l'exercice physique ou pour des motifs de santé, soit suffisamment approprié ? Est-ce qu'on en fait assez ?
Je comprends le confinement et je l'applique à la lettre, bien sûr. Et donc, c'est une de mes façons de participer à l'unité nationale, bien sûr. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est comment le gouvernement n'a pas organisé le confinement individuel. Le confinement individuel, c'est le masque pour se protéger et pour protéger les autres. Et non seulement il ne l'a pas fait pour les Français, mais il ne l'a pas fait pour les professionnels de santé qui sont parmi les premiers exposés, les premiers à souffrir. Et la crise logistique, qui est une crise aussi politique et une crise démocratique, mais cette crise logistique sur le manque de masques, sur le manque de matériel de protection, elle est majeure. Et ça, c'est de l'entière responsabilité du gouvernement. La deuxième crise logistique que nous connaissons, c'est sur le manque de tests. Et il est facile de comparer, il suffit de comparer à l'Allemagne, qui a eu une toute autre politique, parce que l'Allemagne a eu, comme la France, du temps pour se préparer à ce malheur qui est l'épidémie du Covid-19, puisqu'on avait l'expérience de la Chine, mais surtout de l'Italie. On avait de longues semaines d'avance par rapport à l'Italie. Eh bien, ces longues semaines n'ont pas été mises à profit pour avoir des masques, pour commander des kits de dépistage. Et je trouve ça absolument... Comment vous dire ? Je suis atterrée et scandalisée, bien évidemment. Parce que tous les pays qui sont parvenus à juguler l'épidémie, ce sont des pays qui utilisent des masques sur le plan culturel, mais qui en ont utilisé encore plus, et surtout qui ont fait des dépistages massifs. Vous savez, il paraît que ce confinement, ça va nous coûter 6 points de croissance, au moins. Vous ne pensez pas qu'on aurait pu dépenser cet argent pour commander des masques à temps et pour commander des tests de dépistage ? D'autant que la France représente 1% de la population mondiale, mais 15% des dépenses santé et sociales du monde. C'est à peu près 13% de notre PIB, la santé en France. Et malgré tout cet argent investi, on n'a pas pu, sur le plan logistique, sur le plan des commandes, on n'a pas pu commander des masques à temps pour protéger nos professionnels de santé, nos forces de l'ordre, tous ceux qui sont obligés de continuer à travailler pour que le pays fonctionne. Et on n'a pas pu commander des tests à temps. Mais c'est juste Valérie incroyable. Boyer. Ne me dites pas qu'il n'y a personne en France qui est capable de fabriquer des masques. Or, sur le 1 milliard de masques commandés, je crois qu'il y en a 60% qui viennent encore de Chine.
C'est Valérie incroyable. Boyer, députée des Bouches-du-Rhône, vous êtes notre invitée encore une demi-heure sur Sud Radio dans Les Incorrectibles. On reste ensemble, on fait une courte pause, on se retrouve dans un instant.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles ce dimanche en direct jusqu'à 14h avec notre invitée Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône, qui a donc contracté le Covid-19 et qui nous annonce qu'elle est sur le chemin de la guérison, notamment après avoir suivi le traitement du professeur Raoult. Alors, on parle à présent de la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement. Valérie Boyer, on voit encore beaucoup de gens quand même se balader, sortir pour un oui ou pour un non. Est-ce que vous pensez que les Français ont suffisamment conscience de l'enjeu sanitaire qui se joue actuellement ?
En tout cas, moi, j'observe à Marseille que c'est le cas. Parce que là où j'habite, je vois souvent la police par la fenêtre qui arrête les gens. Et malheureusement, je vois des policiers sans masque hein, qui sont exposés. Et je trouve ça absolument honteux de laisser les forces de l'ordre sans protection. J'espère, j'ai entendu dire qu'il y avait des quartiers qui ne le respectaient pas. Maintenant, là-dessus... Il faut que les professionnels de santé continuent à travailler, que les policiers continuent à travailler, que les personnes qui vendent de l'alimentation continuent à travailler, les transports également. Donc ce confinement, il est nécessaire. J'espère que les Français sont raisonnables. S'ils ne le sont pas, il faut qu'ils soient lourdement sanctionnés où qu'ils habitent.
Alors justement, vous parliez des policiers. Votre avis sur le dispositif policier mis en place et les amendes, il est efficace, il est justifié selon vous?
J'en sais rien parce que, vous savez, je ne sors pas là-dessus, mais je peux les observer de la fenêtre de mon domicile. Il y a des règles. Ces règles, on est dans une période hors du commun, il faut les respecter. Moi, c'est pas trop là-dessus que je voudrais m'exprimer parce que je crois que ça dépend des individus et ça dépend des policiers. Ceux qui ne respectent pas les règles dans cette période complexe doivent être sanctionnés, bien évidemment, mais l'urgence absolue, c'est de protéger ceux qui nous soignent. Or, ce
Vous
n'est pas le
comprenez
cas
donc la
aujourd'hui.
colère des syndicats de policiers qui menacent d'arrêter les contrôles si on ne leur fournit pas justement l'équipement nécessaire à leur protection, que vous évoquez notamment les masques.
Mais ils ont entièrement raison, parce qu'eux-mêmes ne sont pas confinés pour leur service. Mais ils risquent en plus de transmettre la maladie. Combien de professionnels de santé ont été contaminés? Combien de professionnels de santé ont dû transmettre la maladie en allant soigner les autres parce qu'eux-mêmes ne disposaient pas de matériel de protection? Mais c'est une évidence. C'est ce que je vous dis. Le gouvernement confine collectivement les Français dans leur maison, à leur domicile, mais n'est pas capable d'organiser le confinement individuel avec les masques. C'est ça qui est incroyable. Et c'est là-dessus que je suis en colère. Et autant, vous voyez, je ne pourrais pas reprocher au gouvernement de ne pas trouver le remède, de ne pas trouver le vaccin, de ne pas trouver le traitement, parce que ça, c'est un problème de scientifique. Même si j'ai tendance à penser que quand on a une solution qui est proposée par un grand savant qui est Didier Raoult, je ne comprends pas comment on ne l'écoute pas, alors que d'autres, comme par exemple le professeur Perron ou d'autres médecins, supplient le gouvernement d'écouter Didier Raoult. Mais ça, c'est un problème scientifique et c'est aux scientifiques de dire si ça marche, si ça ne marche pas. Mais sur d'autres décisions, les masques, les tests, les respirateurs, l'organisation entre le public et le privé, la mobilisation des professionnels de santé, la protection des forces de l'ordre, ça, c'est un problème uniquement politique.
Alors
Et
justement, qu'est-ce que vous pensez
là-dessus, je
de
trouve que
l'attitude?
c'est incroyable. Les
Qu'est-ce que vous
Allemands semblent
pensez de
avoir pris de
l'attitude
bonnes
de...
décisions, la France, non.
Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Christophe Castaner? Jean-Luc Mélenchon n'a pas hésité sur Twitter à le qualifier cette semaine, je cite, de minable menteur car il meurt de peur. Il sait qu'il sera jugé. Jean-Luc Mélenchon pointe notamment la tenue du premier tour des municipales. Quel est votre point de vue sur la question et sur le ministre de l'Intérieur en particulier?
Sur la tenue des municipales, c'est dramatique. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont demandé que les personnes qui ont eu le civisme, le dévouement de tenir les bureaux de vote, puissent être dépistées en priorité. Malheureusement, ça n'a pas été fait. En plus, on les connaît, etc. Moi, je fais partie de l'opposition et je suis élue et j'étais candidate. Donc, j'ai subi ce premier tour. Et là encore, on est dans la politique du en même temps avec un gouvernement qui ne tranche pas. Parce que le soir où Emmanuel Macron a annoncé que les municipales se tiendraient, donc il a annoncé ça le jeudi en disant qu'elles se tiendraient le dimanche, il l'a dit en envoyant un message contradictoire, puisqu'il a dit aux personnes les plus fragiles, ne vous rendez pas dans les bureaux de vote, et notamment à ceux qui ont plus de 70 ans, ce qui déjà altère la sincérité du scrutin. Et pire encore, le samedi soir, le Premier ministre a pris la parole en disant « Je ferme tout, les restaurants, les bars, etc. et je fermerai les écoles lundi, mais je les laisse ouvertes pour le premier tour des municipales. » Mais comment on peut admettre des choses pareilles? Là aussi, on ne peut pas faire du... En même temps, il faut trancher et prendre des décisions. Résultat, on se retrouve sur le plan purement politique dans une situation absolument ubuesque, où on a des personnes qui sont élues au premier tour. On a des conseils municipaux qui fonctionnent à demande dégradée. On pourra probablement... Enfin, je ne sais pas si on pourra voter au mois de juin, mais ça me semble compliqué.
Alors justement, si on ne peut pas voter au mois de juin,
et ensuite,
comme
ce sera au mois
de
septembre,
semaine,
et pourquoi pas l'année prochaine encore.
Et si les résultats, donc... Oui, je disais, si le second tour n'a pas lieu fin juin, est-ce que vous pensez, comme l'évoque Le Monde cette semaine, que les résultats pourraient être invalidés, qu'on devrait partir de zéro lorsqu'on pourra de nouveau mettre en place ces élections? Vous appelez à cela? C'est rejouer le premier tour?
C'est possible. Écoutez, on verra bien à ce moment-là. Je pense que la priorité, ce n'est pas les élections. La priorité, c'est l'épidémie. Aujourd'hui, là, on aura une grosse difficulté parce que aujourd'hui, les conseils municipaux fonctionnent en mode dégradé. Et or, on voit bien qu'on a besoin des mairies, on a besoin des collectivités parce que la faillite de l'État est telle que ce sont les collectivités qui se substituent aux défaillances de l'État, et notamment pour les commandes de masques, pour la distribution des masques. Aujourd'hui, à Marseille, par exemple, eh bien, il y a la mairie de Marseille qui a trouvé des masques et il faut attendre que la présidente du département, la présidente de la métropole, Martine Vassal, eh bien, s'occupe aussi de la distribution et de l'organisation des masques, qui est quand même hallucinant. Et pourquoi? Parce qu'il y a une faillite de l'État dans ce domaine.
Valérie
Vous savez,
Boyer,
par exemple,
dans un tweet
pour les personnes qui, au département, toutes les personnes qui travaillent dans le social, toutes les personnes qui portent les repas au domicile des personnes âgées. Eh bien, c'est au département, donc c'est Martine Vassal qui a dû trouver des solutions pour que ces personnes puissent être protégées, et protéger les personnes à qui elles livrent des repas. C'est absolument fou. Et pendant ce temps, on a des carences de matériel vis-à-vis des professionnels de santé, des infirmiers, des médecins, etc. Toutes ces personnes qui sont au chevet des malades et qui ne parviennent pas à se protéger elles-mêmes et qui propagent et qui sont contaminées elles-mêmes.
Valérie Boyer, dans un tweet du 22 mars, vous félicitez les Républicains pour la création d'une commission d'enquête parlementaire qui permettra d'identifier les dysfonctionnements éventuels dans la gestion de la crise du Covid-19. Donc, qu'est-ce que cette commission, qu'est-ce que vous en attendez?
J'attends qu'elle fasse... D'abord, je dirais qu'il y a deux sujets. Il y a de tirer les enseignements d'une crise comme ça, c'est la moindre des choses quand on est parlementaire, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et le deuxième sujet, c'est de répondre et de voir comment, pour un prochain choc sanitaire, parce qu'il y en aura peut-être un, ou une autre crise d'une autre nature, on peut mieux réagir. C'est tout à fait normal de faire un retour d'expérience. En l'occurrence, il est certain que cette commission d'enquête, elle est aussi demandée parce qu'on est absolument atterré par tous les problèmes logistiques et puis par cette querelle d'experts aussi sur le plan médical.
Ayant été hospitalisé...
J'en veux pour preuve ce qui s'est passé cette semaine. Jeudi, un décret ministériel autorisait la chloroquine, enfin autorisait les établissements à prescrire la chloroquine sans préciser l'état de gravité du malade Et vendredi, moins de 24 heures après, il y a eu un autre décret qui a dit que la chloroquine n'est prescrite que pour les malades les plus graves et après une décision collégiale, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que préconise Didier Raoult. Donc, quand on voit des changements de stratégie permanents, des revirements permanents dans tous les domaines, on ne peut que s'interroger sur la pertinence du gouvernement et sur sa capacité à gérer cette crise. Et c'est notre devoir d'élu, notre devoir de parlementaire, de travailler sur cette question pour que les erreurs que nous subissons aujourd'hui ne se reproduisent pas et qu'on tire les enseignements de cette triste crise.
Valérie Boyer, vous le disiez, vous êtes sur le chemin, on l'espère, de la guérison. Vous avez été hospitalisée, vous avez donc été en contact rapproché avec le personnel soignant, dont nous saluons tous le courage et l'exemplarité dans cette crise sanitaire. Quels mots souhaiteriez-vous leur adresser?
Je voudrais leur dire un grand merci. Un grand merci, un grand bravo pour effectivement leur dévouement, leur bienveillance, leur attention et leur courage aussi, parce que c'est vrai qu'à l'hôpital, à l'infectiopole, les professionnels de santé qui étaient à mon chevet disposaient de tout le matériel nécessaire pour se protéger eux-mêmes. Mais moi, je pense à toutes ces personnes, à ces infirmières, à ces médecins libéraux, à ces établissements privés de santé qui à la fois ne sont pas utilisés et qui peut-être manquent aussi de matériel et qui sont en première ligne et qui manquent de tout et qui sont exposés. Et je voudrais leur dire un grand merci et surtout dire que j'espère qu'ils vont disposer du matériel pour se protéger eux-mêmes et puis pour protéger les autres. Mais il en va des professionnels de santé comme des forces de l'ordre.
Hein. Valérie Boyer,
qui sont
la crise
aussi
de l'hôpital
envoyés
public,
au front sans protection.
Restons, si vous le voulez bien, sur cette crise de l'hôpital public, malgré les récentes grèves. Elle ne date pas d'hier. La logique de résultats imposée depuis 2004 a entraîné une progressive dégradation de l'offre de soins et des conditions de travail des soignants. Aujourd'hui, cette politique nous explose en pleine figure. On le voit bien, on souffre du manque de masques, vous le disiez, de lits, de respirateurs, de tests de dépistage. Les personnes âgées meurent dans les EHPAD et les services de réanimation se préparent à trier les patients à sauver. En tant que personnalité politique, Valérie Boyer, vous êtes députée. Vous avez été, on le rappelle, secrétaire national des Républicains en charge de la santé sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Vous ne vous sentez pas en partie un peu responsable aussi, parce qu'on parle beaucoup de la responsabilité d'Emmanuel Macron, mais il y a aussi ses prédécesseurs sur cette question des masques, par exemple. Vous ne pensez pas que certains des prédécesseurs d'Emmanuel Macron ont aussi quelques responsabilités ?
Alors, sur les masques, je rappelle quand même que sous Nicolas Sarkozy, François Fillon et Roselyne Bachelot, il y avait eu la création de cet établissement de l'EPRUS, justement, cet établissement qui était chargé de répondre à une crise sanitaire et qui était chargé de d'avoir du matériel pour cette crise. D'ailleurs, ce sont les masques de l'EPRUS, parfois, qui ont été retrouvés dans les collectivités et qui ont été reconditionnés et réhomologués pour être mis à disposition des professionnels de santé ou d'autres personnels. Un certain nombre de choses avaient été prises et c'est vrai que Marisol Touraine, aidée de M. Salomon, de M. Véran et de M. Griveaux, s'est acharnée à détruire les Prusses. Donc, je ne dis pas qu'on a fait tout juste par le passé, mais que justement, il y avait une réponse qui était organisée pour répondre à une crise sanitaire à travers la création de cet établissement, de cette EPRUS. Ensuite, je pense que l'hôpital qui connaît une crise très grave depuis plusieurs années n'est pas le seul service public à connaître une crise. C'est l'ensemble des services publics qui connaissent des crises, l'école, la police. Il y a une crise d'autorité dans notre pays. Et puis, il y a une crise tout court, effectivement, des fonctions régaliennes de l'État qu'il faut absolument reprendre. Et moi, j'espère que cette crise, si nous en tirons les leçons, il y a une des leçons qu'il faudra retenir. C'est la souveraineté et la souveraineté nationale, la souveraineté sanitaire que nous avons à retenir. Et aujourd'hui, tout à l'heure, je le disais, dans notre malheur, nous avons la chance d'avoir encore en France un grand laboratoire, celui qui produit du plaquenil, en l'occurrence Sanofi, qui a 18 usines en France, dont deux qui sont consacrées en ce moment à la production de plaquenil. Et ce grand laboratoire, c'est le dernier grand laboratoire, enfin le grand industriel européen. Et ça aussi, c'est une question qu'on devra se poser très très fort. Et aujourd'hui, il y a 25 000 personnes qui sont mobilisées chez Sanofi pour la santé des Français. C'est 40 usines en Europe, 18 usines en France. Et c'est ces questions-là, justement, qu'on doit traiter avec cette alliance publique-privée, avec des industriels qui doivent encore rester chez nous, avec des conditions qu'on doit leur faire aussi pour qu'ils continuent à rester chez nous. On ne peut pas dépendre de tout, de l'étranger pour tout. Et donc, la production de plaquenil, donc que Sanofi met gratuitement au service des hôpitaux et qu'elle continue à produire pour tous les malades, je vous le disais tout à l'heure, qui ont un lupus ou qui ont de la polyarthrite rhumatoïde, avec des ventes en pharmacie. Cette production, eh bien, heureusement que nous l'avons encore en France et qu'elle n'est pas délocalisée, parce que ça nous permet, et ça permet à des centaines d'hôpitaux qui ont passé commande aujourd'hui, eh bien, de pouvoir disposer de ce médicament.
Emmanuel Macron a annoncé un plan massif d'aide au système hospitalier. Vous y croyez ou vous craignez encore de belles promesses ?
Écoutez, je l'espère, mais c'est très compliqué d'avoir un plan massif d'aide au système hospitalier quand on a dépassé les 2 000 milliards de dettes. quand on est à plus de 100% du PIB et qu'on est surtout le pays de l'OCDE le plus imposé du monde, puisqu'on a 57% de prélèvements obligatoires et avec un déficit de la balance commerciale qui a battu tous les records sous la présidence d'Emmanuel Macron. Donc moi, je l'espère, mais c'est compliqué, mais je pense que beaucoup de choses devront être remises à plat à l'issue de cette crise. Et parmi ces choses, je pense qu'il y a un problème de souveraineté, cette souveraineté industrielle, cette souveraineté sanitaire, il faut absolument qu'on la retrouve. Et je pense qu'il y a aussi la place de la France dans l'Europe, parce qu'on voit que l'Europe n'a pas aidé pendant cette crise. On a été encore une fois incapable d'aider l'Italie. En fait, nous subissons deux grosses crises, la crise migratoire, où l'Europe a été totalement impuissante à aider les pays comme la Grèce ou l'Italie. Et ensuite, cette crise sanitaire où on voit qu'il n'y a aucune solidarité sur le plan européen, on voit qu'il n'y a aucune stratégie sur le plan européen, puisqu'on a encore une fois laissé l'Italie livrée à elle-même. C'est la Chine ou la Russie qui aide l'Italie, ce n'est pas les pays d'Europe. Et on a aussi une Allemagne qui, elle, a eu une stratégie totalement différente de la France, par exemple, et une stratégie de protection. Donc là aussi, toutes ces questions-là, ben, elles devraient être mises sur la table. Et moi, je suis très choquée que pendant cette crise sanitaire, on a Madame von der Leyen qui discute de l'élargissement de l'Europe. Je pense qu'on a d'autres chats à fouetter, et notamment de venir au secours des pays européens dans la détresse.
Donc pour vous, cette crise, elle révèle la faillite de l'Europe telle qu'on la voit aujourd'hui ?
Moi, je ne voudrais pas employer ce terme parce que je suis une Européenne convaincue. Mais en tout cas, de l'organisation politique européenne, oui, telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est de tout ça dont il faudra rediscuter, bien évidemment.
Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône, est notre invitée jusqu'à 14h. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de l'émission. Merci, à tout de suite.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles sur Sud Radio en direct jusqu'à 14h pour la dernière partie de l'émission. Nous sommes toujours en compagnie de Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône, qu'on remercie d'être avec nous puisqu'elle est toujours confinée bien sûr chez elle. Et puis on le voit encore avec quelques signes de cette maladie dont elle nous dit qu'elle est sur le chemin de la guérison après avoir suivi le traitement du professeur Raoult. Alors si vous le voulez bien, pour cette dernière partie d'émission, on va encore parler de cette gestion de la crise par le gouvernement. Le gouvernement qui a annoncé tout un système d'aide pour les travailleurs impactés par cette crise, ça va coûter des milliards. Qui va en payer la facture selon vous, Valérie Boyer ?
Ben, je pense tous les Français. On va voir comment les choses... Vous savez, j'entendais l'autre fois l'industrie automobile qui disait qu'elle fermait plein d'usines en France et dans le monde. Je crois qu'ils sont impactés à 90%. Ça va être un choc économique, démocratique, social, sans précédent.
Cette crise sanitaire, Valérie Boyer, votre expérience personnelle, justement, en tant que malade, enfin, on l'espère pour vous, ancienne malade de ce Covid-19, est-ce que ça a changé votre perception de la façon de pratiquer la politique à l'avenir ?
Bon, c'est une question qui est difficile. Pratiquer la politique, je dirais pas ça, ça a changé ça a conforté ma conviction qu'il était important de penser local aussi. Que effectivement, je crois que c'est un des effets de la mondialisation, non pas l'épidémie, parce que les épidémies ont toujours traversé toutes les frontières, mais justement qu'il était vraiment nécessaire de savoir comment, à proximité, on pouvait fabriquer, on pouvait soigner, on pouvait s'occuper. Et probablement, ce besoin de proximité, il faut absolument le retrouver. Et je crois qu'une des différences majeures entre ma famille politique et En Marche, c'est ce côté enraciné qu'il est absolument nécessaire de conforter aujourd'hui. Je ne dis pas un repli sur soi. Ça n'a rien à voir avec le repli sur soi, mais la nécessité de penser que sur le plan personnel, sanitaire, écologique, la proximité, le local, c'est absolument indispensable et qu'un grand pays comme le nôtre a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir surmonter cette crise. Nous avons des industriels formidables encore, nous avons des technologies exceptionnelles, des professionnels de santé de premier niveau, dans le public comme dans le privé. on a encore une recherche de très bon niveau. Regardez, le professeur Raoult en est un des brillants exemples, parce que c'est quelqu'un qui est mondialement connu pour ses travaux. Nous avons aussi un corps d'État qui fonctionne encore, malgré les défaillances logistiques dont le gouvernement a fait preuve. Donc tout ça, je pense que ce sont des arguments formidables pour pouvoir continuer. Et puis les Français font preuve d'une grande solidarité aussi entre eux, envers leurs voisins, envers leurs familles, envers leurs amis, dans cette épreuve du confinement. Donc moi, je suis confiante dans les ressources françaises, si tant est qu'on arrive à les mettre en exergue et si tant est qu'on arrive à leur permettre de s'exprimer. Et je pense que c'est aux politiques aujourd'hui de le faire.
Un mot sur Roselyne Bachelot. En 2009, elle avait violemment été mise en cause et accusée de gaspiller les deniers publics en commandant un nombre de masques importants lors de la crise du H1N1. Vous étiez opposé sur certains sujets, mais qu'est-ce que vous aviez pensé à l'époque? Et puis non. Aujourd'hui, qu'est-ce que...
Non, pas du tout. Moi, j'ai soutenu Roselyne Bachelot dans cette démarche. À l'époque, je siégeais à la commission des affaires sociales, c'est vrai, et j'étais en charge des questions de santé. J'ai soutenu 100% Roselyne Bachelot dans cette démarche. Je suis allée me faire vacciner, etc. Roselyne Bachelot a suivi les recommandations de l'OMS. Aujourd'hui, le gouvernement ne suit pas les recommandations de l'OMS sur les masques et sur les tests. C'est tout ça. Enfin, malheureusement. C'est simple et c'est vrai qu'on l'a brocardé, mais Roselyne Bachelot, à l'époque, il fallait deux vaccins pour les personnes et le public qui risquait d'être touché était prioritairement, enfin les femmes enceintes étaient particulièrement exposées, etc. Roselyne Bachelot avait pris toutes les précautions et avait suivi les recommandations de l'OMS. L'épidémie n'est pas arrivée.
Alors justement, en parlant de ministre de la Santé, quand on voit aujourd'hui certaines déclarations d'Agnès Buzyn, ou même de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Est-ce que vous pensez qu'on nous a menti sur la réalité de la gravité de la situation dès le début de l'épidémie, ou est-ce que vous dénoncez plutôt de l'amateurisme?
Je crois que il ne faut pas être fier d'être amateur quand on a une crise comme ça. Malheureusement, dans cette affaire comme dans d'autres, Emmanuel Macron se comporte plus comme un chef de clan que comme un homme d'État. Il est dans cette affaire du Covid-19 comme il l'a été dans les autres crises que nous avons traversées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision. Aujourd'hui, on s'abrite derrière des comités scientifiques, enfin le gouvernement s'abrite derrière des comités scientifiques, en fait d'autres, mais nous dit qu'il a l'oreille, toujours le téléphone de Didier Raoult. À un moment donné, il faut trancher. Les scientifiques, ils sont là pour conseiller, pour éclairer, et l'homme politique, il est là pour prendre des décisions. Il n'est pas là pour suivre, c'est pas aux scientifiques de définir la politique sanitaire. C'est aux hommes politiques de la définir. C'est pareil pour les militaires. Les militaires, ils sont là pour donner un certain nombre de choses quand il y a la guerre, mais c'est aux hommes politiques de prendre des décisions. Et je suis consternée de voir comment les choses sont gérées. C'est Clémenceau qui disait que la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser aux militaires. Ben, je pense que la guerre sanitaire est peut-être une chose trop sérieuse pour s'étourdir de comités scientifiques divers et variés. Qu'on s'appuie dessus, c'est une chose. Il y a l'OMS dont on doit suivre les recommandations, sinon ça ne sert à rien d'avoir un organisme comme celui-ci. Et puis, il y a des spécialistes de la question dont on devrait s'inspirer des recommandations, mais c'est aux politiques de trancher.
Mais alors, ce qui est surprenant, paradoxalement, la gestion de la crise du président est jugée relativement bonne par les Français, à en croire sa cote de popularité, qui est en hausse, de même que celle de son Premier ministre. Ça semble contradictoire, ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai du mal à y croire. Parce que quand je vois la réaction des professionnels de santé, qui fait extrêmement rare... ont assigné Madame Buzyn et le gouvernement, et je crois le président de la République, pour défaut de protection. Quand je vois la révolte des forces de l'ordre, je me dis qu'ils réagissent comme tous les Français et que, encore une fois, sur le plan du traitement, on ne peut pas reprocher de ne pas avoir les vaccins, les remèdes, etc. Mais sur le plan de l'organisation, oui.
Le président de la République, sur le plan économique, a assuré pas de chômage et pas de faillite, mais on se demande un peu comment, c'est réalisable. Quels sont les moyens à disposition du gouvernement selon vous? Qu'est-ce que vous feriez à sa place aujourd'hui?
Oh, écoutez, sur cette question, je ne suis pas complètement compétente pour vous répondre aujourd'hui. D'abord, on va mesurer le choc de cette déflagration liée à l'épidémie et au confinement. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises vis-à-vis des banques, mais par contre, je vais vous faire part d'une de mes surprises. Elles demandent des taux d'intérêt par rapport aux prêts, enfin, taux d'intérêt qu'elles appliquaient précédemment. Donc, je vais voir, je travaille avec mes collègues justement pour qu'on puisse sortir le moins cabossé possible de cette crise économique qui s'annonce très très violente. Mais en France, la dette, le taux de prélèvement fait que nous n'avons pas beaucoup de réserves, donc il y aura sûrement d'autres choses à inventer. Et
Est-ce
je
que
sais
sur
que
un
les
plan politique...
Républicains, ma famille politique, sera au rendez-vous pour faire des propositions. J'espère que pour une fois, on sera entendu.
Alors, vous le disiez, la priorité est bien sûr la gestion de cette crise sanitaire, mais est-ce que sur le plan politique, c'est toujours délicat d'aborder cette question? Est-ce que vous ne pensez pas que les grands gagnants de cette crise ne seront pas à l'arrivée la France insoumise ou le Rassemblement national et pas forcément les Républicains, votre famille politique?
Moi, je ne suis pas du tout dans ces considérations et dans ces préoccupations. Ma seule préoccupation aujourd'hui, ma préoccupation, elle est double, hein, c'est que matériellement, les Français puissent se protéger avec le confinement individuel que constituent les masques, qu'ils puissent être dépistés en masse pour connaître où en est l'épidémie et surtout pour que ceux qui sont contaminés ne contaminent pas les autres, qu'on accède à des traitements si ceux-ci sont jugés, en tout cas qu'il y ait la liberté de cet accès au traitement préconisé par Didier Raoult, comme le demandent de nombreux professionnels de santé, par exemple le professeur Perron, Douste Blazy, qui fait partie du comité scientifique et du conseil d'administration de Didier Raoult et qui s'exprime de façon totalement transparente sur cette question, qu'on permette aux gens qui proposent des solutions, eh bien justement que ces solutions puissent être appliquées. Ensuite viendra le temps politique, ensuite viendra le temps du travail parlementaire pour trouver des solutions et pour permettre de sortir au mieux de cette crise. Mais clairement, il y aura beaucoup de choses à inventer.
Il y aura un avant et un après. On voit partout de beaux élans de solidarité. Juste pour finir, vous pensez que cette crise, elle peut déboucher sur un monde meilleur, moins égoïste? Allez, en une phrase.
C'est ce qu'on espère. J'espère que. En tout cas, beaucoup de choses sont en train d'être découvertes par les Français. Cette proximité, le voisinage, l'entraide, le fait qu'on redécouvre aussi une certaine forme de vie en famille pour ceux qui ont la chance de pouvoir être confinés près des gens qu'ils aiment. Et ça, je pense que c'est l'attention qu'on a
Merci.
les uns vis-à-vis des autres. Le temps qui est le nôtre de contacter des personnes
Merci
qu'on ne
beaucoup
prend pas
Valérie
le temps de
Boyer.
faire dans l'année, des amis qu'on n'a pas contactés depuis longtemps, etc., des nouvelles,
Eh bien, ce sera le mot de
l'inquiétude
la
qu'on peut
fin.
avoir vis-à-vis d'eux. Tout ça, je pense que ce sera sur le plan sentimental quelque chose d'important et j'espère qu'il restera.
Merci beaucoup Valérie Boyer. L'émission touche à sa fin. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.